Midi en temps universel, il est 13h ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Et comme promis, le journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour. Tapis vert à Bakou en Azerbaïdjan pour la COP29 sur le climat et ce bras de fer en vue sur le financement des aides aux pays en développement. God Save the King, joué sur les Champs-Élysées à Paris, commémoration du 11 novembre 1918, l'armistice de la Première Guerre mondiale, en présence du Premier ministre britannique. À suivre aussi le Hezbollah qui se dit prêt à une longue guerre face à Israël. Une nouvelle étape de la crise politique en Haïti avec le limogeage du Premier ministre Gary Conny. Et puis au Sénégal, des rencontres littéraires autour d'un livre fondateur du féminisme africain, La parole aux négresses, de la chercheuse Awatiam.
C'est parti pour les négociations à la COP29 de Bakou en Azerbaïdjan. La conférence climat de l'ONU s'est ouverte par un appel à la coopération mondiale.
Notamment pour financer les pays les plus pauvres et les plus vulnérables au changement climatique. Simon Steele est président de l'ONU Climat tout à l'heure à l'ouverture de la COP.
Arrêtons de nous dire que le financement de l'action climatique est une œuvre de charité. Un nouvel objectif financier ambitieux est dans l'intérêt de chaque nation, y compris les plus grandes et les plus riches. Nous ne pouvons pas quitter Bakou sans un accord ambitieux. Il est temps de montrer que la coopération internationale n'est pas au point mort, qu'elle va se renforcer ici. Alors je vous exhorte, mobilisons-nous tous. Let us rise
together. Voilà, appel à la mobilisation donc à l'ouverture de cette COP29 et on vous retrouve à Bakou, Manon Chapelin, vous êtes en direct. Près de 51 000 personnes sont accréditées pour cette conférence selon l'ONU Climat, mais sur place, hein, vous l'avez constaté, les ONG, les militants sont un peu sceptiques.
Oui, l'enjeu principal cette année, c'est donc de parvenir à cet accord sur un nouveau montant d'aide à destination des pays en développement pour les aider, entre autres, à financer leur transition énergétique et faire face aux effets du changement climatique. Pour répondre à ces besoins, l'enveloppe totale doit au minimum être multipliée par 10 pour atteindre 1 000 milliards de dollars, selon les estimations. Mais de nombreux pays occidentaux jugent ce montant irréaliste. Lors d'une conférence de presse conjointe ce matin, plusieurs ONG ont déjà affirmé qu'elles ne quitteront pas la COP29 tant que le niveau d'ambition sur la finance n'est pas à la hauteur. Ces premières déclarations se font dans un contexte un peu particulier, celui de la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Le nouveau président américain avait, lors de son précédent mandat, fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avant que Joe Biden ne revienne sur cette décision. À la veille du sommet des chefs d'État, certains militants avec qui nous avons discuté ce matin déplorent, eux, l'absence symbolique de nombreux représentants, parmi lesquels Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine ou encore le président brésilien Lula, pourtant hôte de la COP30 l'année prochaine.
Manon Chapelin en direct de Bakou, où s'est donc ouverte cette COP29. J'ajoute ces appels de plusieurs ONG de défense des droits de l'homme qui dénoncent la répression des voix dissidentes en Azerbaïdjan. L'hymne britannique a résonné tout à l'heure en fin de matinée. C'était à l'Arc de Triomphe à Paris, cérémonie des commémorations du 11 novembre 1918, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Baptiste Coulomb, vous avez suivi cette cérémonie donc sur les Champs-Élysées, présidée par Emmanuel Macron et avec donc un invité d'honneur, le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Exactement, Charlotte, cérémonie sous le signe de l'amitié franco-britannique pour ce qui est aussi le 120e anniversaire de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, ont d'ailleurs multiplié ce matin les références à cette amitié en plusieurs temps. D'abord avec un dépôt de gerbes au pied d'une statue de Winston Churchill, pas très loin de l'avenue des Champs-Élysées, qu'ils ont ensuite remonté jusqu'à l'Arc de Triomphe, où ils ont ravivé ensemble la flamme du souvenir sur la tombe du soldat inconnu. Et puis on a ensuite eu droit donc à une Marseillaise et enfin un God Save the King, on l'a entendu à l'instant, chanté par le chœur de l'armée française. Cérémonie qui est à présent terminée. Il y avait du public ce matin sous la bruine, beaucoup d'anglo-saxons, des australiens, des canadiens, des néo-zélandais et aussi la diaspora anglaise. On a discuté d'ailleurs tout à l'heure avec quelques britanniques qui nous racontaient à peu près tous la même chose, l'importance du souvenir, l'importance d'une Europe unie, nous disait-il aussi, peut-être plus encore cette année que les années précédentes. précédente en raison de la poursuite de la guerre en Ukraine d'une part, et d'autre part en raison de l'élection de Donald Trump il y a quasiment tout juste une semaine du côté des États-Unis.
Baptiste Coulon en direct des Champs-Élysées à Paris. Une nouvelle prise de parole du Premier ministre en Espagne, Pedro Sanchez, qui vient d'annoncer de nouvelles mesures de soutien pour les sinistrés des inondations meurtrières dans la région de Valence. Mesures d'un montant de près de 3,8 milliards d'euros supplémentaires. Le temps du débat politique viendra, ajoute le chef du gouvernement espagnol, après la reconstruction.
Une pure invention, une fausse information.
La Russie dément tout échange téléphonique entre le président Poutine et Donald Trump. C'est ce qu'avait avancé notamment The Washington Post. Selon le journal, le président américain élu aurait demandé au président russe de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine.
Donald Trump le surnomme le tsar des frontières. C'est un tenant de la ligne dure qui a été nommé à la tête de l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration aux États-Unis.
Tom Oman, donc surnommé le tsar des frontières, Tom Oman, qui était déjà à ce poste lors du premier mandat de Donald Trump et qui sera chargé, selon le président élu, de toutes les expulsions d'étrangers en situation illégale. Donald Trump veut se passer de l'approbation du Sénat pour ses nominations. Il demande aux sénateurs en majorité républicain de ne pas passer par ce processus de vote.
La victoire sans appel de Donald Trump, la défaite de Kamala Harris et les leçons à tirer pour le camp démocrate.
Qui a commencé à plancher sur ce qui n'a pas marché. Sur les raisons de la défaite, et l'une de ces raisons, c'est la défection d'électeurs musulmans en lien avec les guerres d'Israël soutenues par l'administration Biden. Reportage à Dearborn, surnommée la capitale arabe des États-Unis, Abla Junaidi.
À Dearborn, la moitié des électeurs sont musulmans. Abed Hamoud est avocat. Il est originaire du sud Liban et a fondé il y a 25 ans le premier lobby de la communauté. Aujourd'hui, il est amer.
Je suis trahi parce que c'est mes frères et sœurs qui sont en train de se faire tuer. Je suis trahi en tant qu'Américain tout court, parce que ce n'est pas les valeurs américaines et qu'on m'a appris depuis que je suis venu dans ce pays. Et je suis trahi en tant que démocrate. Moi, j'attendais que les républicains mènent des guerres comme ça.
Face au massacre au Proche-Orient, Nour et Sabrine, deux jeunes électrices d'origine irakienne, il n'était pas question non plus de voter Kamala Harris.
Elle aurait laissé la guerre continuer jusqu'à ce que tout le monde soit mort, des monceaux de cadavres, des enfants.
En tant que musulmans, nous attendons la justice. Le fait que la Palestine soit conquise par Israël a incité beaucoup d'entre nous à voter pour le Parti vert, parce qu'ils ne veulent pas être associés à quelqu'un de pro-Israël.
Plus que le Parti vert, c'est Donald Trump qui a fait une percée à Dearborn. Il a fait un saut ici à la fin de la campagne. Ce vote a séduit Michael, d'origine libanaise.
On dit que c'est le droit des femmes, mais je crois que l'enfant dans le ventre de la femme, on ne lui donne aucun choix. Donald Trump est pro-life, Kamala Harris pro-choice. C'est surtout pour ça que je n'ai pas voté pour Kamala.
Un énorme chantier attend le Parti démocrate tenté de reconquérir cet électorat en croissance. Abla Junaidi, Détroit, RFI.
Ce qui n'a pas marché aussi pour les démocrates, c'est tout simplement que Donald Trump, lui, a réussi à convaincre beaucoup plus largement qu'en 2020. On en parlera avec notre invité après le journal de 13h, temps universel, dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Et on parlera aussi de la nouvelle crise politique en Haïti, un coup de tonnerre. Le limogeage de Gary Conille, Premier ministre, après seulement 5 mois à son poste, Charlotte.
Le désormais ex-chef du gouvernement conteste, dénonce une décision illégale. C'est effectivement une nouvelle étape de la crise politique chronique en Haïti. Pour remplacer Gary Conille, le Conseil présidentiel de transition a choisi Alix Didier Fils-Aimé. C'est un homme d'affaires, Nicolas Roca. Son nom avait déjà été avancé pour le poste.
Oui, Charlotte, il avait fait partie des candidats venus de la société civile dont le profil avait été étudié par le Conseil présidentiel de transition. À 52 ans, Alix Didier Fils-Aimé a été président de la Chambre de commerce et de l'industrie et candidat malheureux au Sénat en 2015. Son père, connu pour avoir été un militant de la cause démocratique, a été emprisonné durant la dictature des Duvalier avant d'être élu député dans les années 1990. Alix Didier Fils-Aimé, lui, est diplômé de l'Université de Boston aux États-Unis. Il a ouvert plusieurs entreprises en Haïti, dont une chaîne de pressing et le fournisseur d'accès à Internet Ainet. Sur son profil LinkedIn, il se présente comme un entrepreneur citoyen engagé. Il est donc nommé Premier ministre, une nomination contestée par Gary Conil qui jusqu'au bout a tenté d'empêcher la publication du nom de son successeur au journal officiel. Il estime que le CPT n'a pas autorité pour le révoquer. La situation sécuritaire, elle pourrait encore se dégrader cette semaine. La police nationale d'Haïti a annoncé renforcer son dispositif dès ce lundi, alors que plusieurs chefs de gang menacent de faire ressurgir la terreur dans les rues de Port-au-Prince.
Nicolas Roca, Israël visé par un tir de missile en provenance du Yémen ce lundi contre une base militaire près de Jaffa. Un tir revendiqué par les rebelles houthis sur le front libanais où Israël est en guerre ouverte contre le Hezbollah. Et bien le mouvement chiite affirme que l'armée israélienne n'occupe aucun village du sud du Liban, Paul Khalife.
Plusieurs dizaines de journalistes libanais et étrangers ont répondu à l'invitation du porte-parole de Hezbollah à une conférence de presse ce lundi en plein cœur de la banlieue sud de Beyrouth, en partie détruite par les raids israéliens des dernières semaines. Mohammad Afif a assuré que l'armée israélienne ne pourra pas gagner cette guerre et ramener les habitants du nord dans leurs maisons grâce à sa supériorité aérienne ou en détruisant les villages et en tuant les civils au Liban, fin de citation. Pour être victorieux, Israël doit se battre sur le terrain où l'attendent plus de 100 000 combattants du Hezbollah qui l'ont empêché, selon lui, d'occuper durablement un seul village dans le sud du Liban après 45 jours de combat. Réagissant aux informations de presse sur un accord proche qui mettrait fin à la guerre, le porte-parole du Hezbollah a déclaré que les autorités libanaises n'ont encore officiellement reçu aucune proposition spécifique. Il a cependant confirmé que des contacts politiques et diplomatiques ont lieu à Washington, Moscou et Téhéran au sujet des moyens de stopper la guerre en cours. Indépendamment des démarches diplomatiques, le Hezbollah s'est réorganisé et s'est préparé à tous les niveaux pour une longue guerre, a conclu Mohammad Afif. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Au Japon, ça passe pour le Premier ministre Shigeru Ishiba, maintenu à son poste après un vote au Parlement, mais sans majorité absolue. Il a une marge de manœuvre très limitée. Et puis les législatives à Maurice, le Premier ministre Jugnauth qui reconnaît une défaite après le vote d'hier. On y reviendra dans Afrique Midi, 12h30, temps universel.
C'est un livre qui a fait son retour en librairie au Sénégal et en France ces derniers mois. La parole aux négresses.
De l'anthropologue sénégalaise Awa Thiam, c'est un ouvrage majeur du féminisme, incontournable dans les facultés américaines, mais qui avait donc disparu dans sa version francophone. Et au Sénégal, c'est la maison d'édition Saraba qui a réédité ce livre et qui organise ces dernières semaines des rencontres littéraires dans plusieurs villes du pays pour faire connaître ce texte, pour revenir sur les problématiques qu'il aborde et qui sont toujours d'actualité. Reportage à Dakar, Léa Lisa Festerov.
Installée face à une vingtaine de femmes, Dei Fatoukane, doctorante en sociologie, lit un extrait de La parole aux négresses. Dans l'audience, Fatoumata Diallo, ingénieure en finance, ne se remet pas du choc éprouvé à la lecture de l'ouvrage.
J'ai ressenti une actualité qui m'a surprise et j'ai regardé à nouveau la date où ce livre est sorti, fin des années 70, et en 2024, nous sommes encore en train de parler des mêmes sujets, des violences morales, physiques, économiques.
Publiée en 78, Awa Thiam est la première africaine à oser faire état des problèmes qui gangrènent la vie de ses sœurs sénégalaises, guinéennes, maliennes et ivoiriennes. Pour la réalisatrice et militante Fatoua Rassemble, ces témoignages sont un outil précieux.
Parce que Awa Thiam a abordé tous les sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Ouais, on parle de dépigmentation, de la polygamie, de tous ces sujets-là. Et elle a visibilisé la parole des femmes pour nous faire entendre. Parce que quand tu es une femme et que tu parles de certains sujets, les gens vont vous dire soit tu es folle, ça se passe dans ta tête. On essaie de te dire que ce que tu dis là n'existe pas.
Est-ce la raison pour laquelle l'ouvrage a disparu des librairies francophones dans les années 80? Dei Fatoukane, écrivaine et préfacière de l'ouvrage, confirme qu'il est toujours aussi difficile de porter le combat.
Parce que nous, féministes sénégalaises, sont toujours accusés de pervertir les sociétés, de travestir les valeurs et que le féminisme est une idéologie qui vient d'ailleurs. Donc ça remet le débat au centre sur notre perspective féministe sénégalaise.
L'objectif, qu'Awa Thiam soit un jour enseignée à l'université au Sénégal. En attendant, 2000 exemplaires de son livre ont été imprimés au Sénégal. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et en France, La parole aux négresses d'Awa Thiam a été rééditée aux éditions Divergence. Un, deux, trois et quatre récompenses pour Taylor Swift au MTV European Music Awards hier soir à Manchester. Taylor Swift, la méga star de la pop américaine, n'était pas présente, mais elle a triomphé à cette cérémonie, désignée notamment meilleur artiste de l'année et meilleure vidéo pour son clip sur cette chanson « Four Nights ». Taylor Swift, sacré donc au MTV European Music Awards. C'est ainsi que se termine ce journal RFI Midi. Se poursuit avec vous, Anne Cantner.
Merci Charlotte Hydrac. On va parler de l'actualité sportive tout de suite. Bonjour Babacar Diarra.
Bonjour Anne.
On va commencer par du football. La 11e journée de Ligue 1 s'est terminée hier avec la victoire de Lyon contre son grand rival Saint-Etienne.
Le retour du derby a réussi au Gaune, vainqueur 1-0 et désormais 5e à 11 points du leader, le Paris Saint-Germain. Le but libérateur de cette victoire de prestige est l'œuvre du capitaine lyonnais Alexandre Lacazette. Après la rencontre chez nos confrères de DAZN, il a révélé ce qui l'a motivé pour le match d'hier. Une page de sa carrière, c'est probablement tourner.
Ce soir, c'était surtout le cœur parce que c'est mon premier au Groupama et sûrement le dernier aussi. Donc, c'était surtout le cœur qui jouait et je me suis imprégné de toute l'énergie, que ce soit de ma famille, mes amis, du stade aussi. Avoir les supporters derrière, c'était top et la confiance dans le groupe qu'on allait gagner ce soir.
Le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette.
En Angleterre, un autre derby a conclu la 11e journée de Premier League avec des clubs londoniens repartis dos à dos.
À Stamford Bridge, Chelsea et Arsenal n'ont pas pu se départager un partout score final. La rencontre s'est débloquée tardivement à la 60e minute avec un but du Brésilien Gabriel Martinelli pour les Gunners. Le Portugais Neto lui a répondu 10 minutes plus tard d'une superbe frappe pour égaliser en faveur des Blues. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est contenté de ce point en fin de rencontre, même s'il affichait quelques regrets.
Notre équipe a montré un beau visage après le but que nous avons encaissé de manière inacceptable. Nous avons été bons face à une équipe dominatrice. Malheureusement, à la fin, nous n'avons pas réussi à concrétiser nos dernières occasions pour remporter la victoire.
Au classement, Arsenal et Chelsea partagent la troisième place avec 19 points à 9 unités du leader Liverpool.
Et puis on poursuit ce tour d'Europe en Espagne et en Italie où il y a un embouteillage en tête du classement à l'issue de la 12e journée.
C'est rare et prometteur après deux saisons sans grand suspense en Serie A. Les 6 premiers se tiennent en 2 points. Hier soir, le Napoli a conservé la tête mais sans creuser l'écart avec un nul 1 partout sur le terrain de l'Inter Milan. Les Nerazzurri font partie des poursuivants avec l'Atalanta, la Fiorentina et la Lazio. 4 équipes à 25 points, soit un de moins que Naples. Enfin, la Juventus Turin ferme la marche de ce top 6 très compact avec 24 points. Quant à la Liga espagnole, elle a vu son leader, le Barça, s'incliner à San Sebastián 1-0 face à la Real Sociedad. C'est la deuxième défaite des Catalans en championnat, mais ils conservent 6 points d'avance sur le Real Madrid, qui compte toutefois un match en moins.
Enfin, direction les États-Unis pour parler de basket et du retour en NBA réussi du vice-champion olympique Gershon Yabusele.
Les deuxièmes chances en NBA sont rares, et encore plus à l'âge de 28 ans. L'ailier fort français a obtenu cette main tendue 5 ans après avoir été coupé par les Boston Celtics. En début de saison, les Philadelphia Sixers lui ont proposé de rejoindre leur effectif en provenance du Real Madrid. Et Yabusele croque cette opportunité à pleines dents. La nuit dernière, il a battu son record de points avec 20 unités inscrites lors du succès 107-105 face aux Charlotte Hornets. Yabusele reste tout de même mesuré sur ce début idyllique.
Ça ne fait que 9 matchs. Je pense qu'en fin de saison, il sera temps de faire le bilan. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas à me plaindre. Ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance d'entrer sur le parquet, de jouer, d'avoir des tirs, mais aussi de gagner quelques matchs. Ce sont des sensations que je n'ai pas vraiment eues durant mon passage à Boston. Là, j'ai vraiment le sentiment de jouer, d'être utile à mon équipe contre des adversaires difficiles. C'est ce que je recherchais, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je vais faire de mon mieux et tout donner.
Le joueur français de Philadelphie, Gershon Yabusele.
Merci Babacar Diarra, voilà pour l'actualité sportive. À suivre aussi sur internet, rfi.fr.
RFI Midi, le monde à la mi-journée.
L'actualité de ce 11 novembre, on en parlait il y a quelques minutes dans le journal, c'est l'ouverture de la COP29. Grand rendez-vous sur le climat et nous en parlons avec le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Bonjour Sébastien Treyer.
Bonjour.
La COP a donc commencé ce matin avec un appel du représentant des Nations Unies sur le climat. Écoutez.
No country is immune.
Aucun pays n'est à l'abri. Laissons donc de côté l'idée selon laquelle le financement climatique est une œuvre de charité. Un nouvel objectif ambitieux en matière de financement climatique est entièrement dans l'intérêt de chaque nation, y compris la plus grande et la plus riche.
L'allusion est à peine voilée hein, aux États-Unis, dont le président élu Donald Trump a fait savoir qu'il comptait sortir de nouveau de l'accord de Paris qui avait été signé en 2015. C'est ce qu'il avait déjà fait lors de son premier mandat. Sébastien Treyer, est-ce que l'élection de Donald Trump a déjà un effet? Est-ce que vous pensez que ça va se sentir là, lors des discussions qui sont prévues pendant les deux prochaines semaines?
Évidemment, ça va se sentir parce qu'on a besoin de définir dans ces deux prochaines semaines le plancher à partir de 2025 des financements du nord vers le sud. D'argent public, hein, pour le dire de manière un peu brutale. Et donc, si les États-Unis manquent à l'appel ou n'augmentent pas leur contribution, alors qu'ils sont déjà un des plus mauvais payeurs sur ce volet-là, ça va être difficile pour les autres pays du Nord de compenser ça. Mais néanmoins, la Chine et d'autres pays comme le Brésil ont tout intérêt à démontrer que l'accord de Paris continue de marcher. Et donc, on peut compter, à mon avis, beaucoup sur ces pays-là pour montrer la direction.
Alors, vous venez de citer certains noms de grands pays qui pourraient intervenir. Il y a une centaine de dirigeants qui doivent participer à cette COP, mais il y a aussi plusieurs absents de marque. Joe Biden, le président américain, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien, le président sud-africain et Lula, le président brésilien. Il y en a d'autres hein, aussi, le premier ministre canadien, australien, néerlandais. Voilà, tous ces pays seront représentés, ils ne seront pas complètement absents, mais ils ne seront pas représentés par leurs dirigeants. C'est exceptionnel qu'il manque tant de chefs d'État et de gouvernement.
Je pense que c'est effectivement une conjonction pas très positive. Néanmoins, ce qui va compter beaucoup, c'est la présence des ministres des Finances. On voit vraiment se déployer dans la discussion sur le climat le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'une discussion entre les ministères de l'Environnement, mais une discussion sur la question des politiques macroéconomiques des pays, une discussion sur la manière dont on peut stabiliser l'économie mondiale qui est sinon en risque de subir les dommages du changement climatique, et notamment stabiliser la situation économique des pays les plus pauvres. Et ça, c'est une discussion sur lesquelles les ministères des Finances sont très présents et c'est ça qui me rassure aujourd'hui.
Donc sur ces principaux pays, les principaux pollueurs et puis les grandes puissances, vous pensez que les représentants ont autorité pour prendre des engagements financiers lors de cette COP?
C'est ce que j'espère et je crois en tout cas que du côté du représentant chinois, dont j'ai compris qu'il est le numéro 6 dans la hiérarchie du gouvernement chinois, c'est en tout cas celui qui est vraiment en charge des enjeux importants pour cette COP. Donc effectivement, la présence des chefs d'État aurait pu donner une impulsion positive, plus importante, mais je crois qu'il faut aussi compter sur le fait que là, on a aussi dans les prochaines semaines, le sommet du G20 brésilien, où des éléments sur la finance du côté de la réforme de la Banque mondiale, des banques multilatérales de développement, du Fonds monétaire international, vont permettre de consolider ce qui se discute à Bakou. Ce qui se discute à Bakou, c'est des centaines de milliards de dollars par an. Ce qui se discute dans les enjeux discutés au G20, c'est des milliers de milliards de dollars. Donc on est 10 fois plus, les montants sont 10 fois plus importants au G20.
Cette impulsion positive que vous évoquez, elle a pris aussi un sacré coup avec une annonce de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a décidé de ne même pas participer à la COP, qu'elle considère comme une perte de temps totale. Est-ce que c'est vrai pour certains pays et notamment pour les petits pays insulaires?
C'est vrai que ça demande une énergie extrêmement importante, mais heureusement pour beaucoup d'autres pays insulaires, ils se font entendre parce que cette COP sur la finance, c'est aussi une COP sur la finance pour ces pays les plus vulnérables. Donc le signal est pas bon du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je pense que c'est aussi une manière de montrer, de taper un point très fort sur la table.
Il y avait eu des tensions aussi l'année dernière, puisque l'accord à la dernière COP avait été adopté en leur absence, avant que les représentants n'arrivent.
Oui, je comprends bien. C'est vrai que pour beaucoup de petits pays insulaires, alors la Papouasie n'est pas un petit pays en surface, hein, mais les moyens à dépenser pour être présent pendant 2 semaines à la COP sont extrêmement importants et on peut les comprendre. Néanmoins, je pense que cette question de savoir comment est-ce que les flux financiers nord-sud vont pouvoir aider les pays les plus vulnérables comme la Papouasie à ne pas subir uniquement les dommages du changement climatique, mais avoir les moyens d'investir pour s'en protéger et pour changer de trajectoire de modèle économique, c'est à mon avis ce qui doit se discuter aujourd'hui à Bakou.
Parmi les doutes qui ont été exprimés aussi récemment, il y a ceux de plusieurs ONG, dont Transparency International, qui parlait d'une COP qui risquait d'être compromise par l'influence excessive des entreprises et une mainmise de l'industrie des énergies fossiles. C'était les termes choisis par l'ONG. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui justifie ces critiques cette année ?
À mon avis, c'est une critique qu'on a entendue déjà l'année dernière aux Émirats Arabes Unis, hein, et donc il est extrêmement important que les pays qui organisent la COP soient tenus comptables des engagements qu'ils essayent de prendre. On a entendu la présidence actuelle azerbaïdjanaise parler d'une taxation de l'extraction des énergies fossiles, parler de l'importance de réorienter la finance privée pour qu'elle soit alignée avec les enjeux climatiques. Il faut qu'ils se démontrent cet engagement. Je pense que c'est ça qui est absolument important. Il est certain que les industries pétrolières sont très présentes dans toutes les COP pour essayer d'en minimiser l'ambition en matière de réduction des émissions.
C'est très important aussi pour l'Azerbaïdjan puisque les exportations de pétrole et de gaz représentent 90% des exportations totales du pays. Vous nous l'avez dit, il y avait eu des doutes aussi exprimés l'année dernière pour la COP qui s'était tenue aux Émirats. Est-ce que ça avait empêché l'adoption de certaines mesures ? Est-ce que ça avait bloqué certaines discussions ?
En fait, on a vu plutôt marcher l'année dernière la responsabilisation d'un pays comme les Émirats Arabes Unis qui voulait se montrer comme étant un des champions du multilatéralisme, prenant un peu des responsabilités d'échelle internationale en présidant cette COP. Et ils avaient été obligés d'être plus ambitieux que ce qu'auraient aimé d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, notamment en menant l'ensemble des pays rassemblés à la COP pour qu'ils s'accordent sur cet objectif de se transitionner en dehors des énergies fossiles. Excusez ma traduction maladroite de l'anglais, en tout cas, de sortir des énergies fossiles à terme.
Donc des effets qui
pas du tout une évidence.
Des effets qui peuvent être quand même positifs. Merci beaucoup Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Reportage en Afrique du Sud à présent, où les médias misent beaucoup sur l'intelligence artificielle. On l'a vu récemment lors de la conférence annuelle sur le journalisme d'investigation organisée à Johannesburg. L'IA prometteuse, comme l'ont confié les participants à notre correspondante Claire Bargelès.
Hello and welcome to this week on Site.
Voici Alice, présentatrice des journaux en ligne du média zimbabwéen Site. Mais Alice n'existe pas vraiment. Elle a été créée grâce à l'intelligence artificielle. Pour Loulou Brenda Harris, l'une des vraies reporters de l'équipe, cela permet de dégager du temps pour faire du travail d'enquête.
Les journalistes humains produisent le contenu et on écrit un script que l'on donne à Alice pour la présentation. Notre rédaction n'a que 3 reporters, donc maintenant on a du temps pour faire davantage de reportages de fond, car on sait que la présentation de l'information sera gérée par Alice.
Au-delà de cet exemple, l'IA offre aussi de nouveaux outils afin de traiter un grand volume de données, ce qui peut être intéressant pour enquêter, selon Henry Conte Evans, professeur de journalisme à l'université d'Eswatini.
On peut maintenant télécharger un ensemble de données et rédiger des instructions pour obtenir certaines réponses, et cela peut aider à aller dans la bonne direction. C'est un moyen intéressant pour combler un manque de compétences, puisque jusqu'à présent, lorsque les journalistes avaient besoin d'analyser des données, ils n'avaient pas forcément les connaissances pour le faire.
L'IA peut cependant aussi servir à manipuler les images et l'information. Pour Narcisse Bounzama, expert numérique congolais, il est crucial pour les journalistes de se familiariser avec ces outils.
Avec le développement des technologies, si vous n'êtes pas à jour, vous serez mis hors jeu. Et il sera difficile, par exemple, pour un journaliste qui ne maîtrise pas les outils d'intelligence artificielle, de pouvoir identifier certaines vidéos. Donc il faut vraiment avoir des compétences beaucoup plus avancées, soit dans l'utilisation des logiciels d'intelligence artificielle ou dans le fact-checking, pour pouvoir être à mesure de pouvoir identifier ce genre de vidéos.
Mais ces technologies ne sont pas forcément conçues et adaptées pour le continent africain, comme le regrette Imanel Cherbini, journaliste égyptienne et enquêtrice pour l'ONG Bellingcat.
Par exemple, nous avons essayé de travailler sur le Soudan en identifiant les incendies et les forêts qui ont été brûlées. Mais c'était très compliqué car il n'y avait pas suffisamment de données satellites des années précédentes. Je pense que les personnes qui travaillent sur les technologies de l'intelligence artificielle devraient inclure beaucoup plus les chercheurs africains dès le début.
L'utilisation de l'IA pour mener des enquêtes journalistiques en est en tout cas encore à ses prémices et de nombreuses utilisations restent à explorer. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos informations sur l'appli RFI Pure Radio ou sur notre site internet rfi.fr. Vous restez avec nous, l'actualité africaine dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Deuxième émission à la Biennale de Dakar et on parle d'art, de vie quotidienne mais aussi du futur avec deux jeunes artistes sénégalais, Badit Pixel et Mohamed Diop, la peintre camerounaise Wilfried Bimda et son galeriste, le parisien et passionné d'Afrique Christophe Persson, dont les artistes sont présents et dans le in et dans le off.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.